shopping génétique. Ça fait flipper, rien que d'entendre ça. Je vais passer pour une vieille conne, mais c'était mieux avant, non? Mais là, en fait, on fait quoi de ces enfants-là? Et puis si ça va pas, on en fait quoi?
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie sans cesse renouvelée, ce qui est d'autant plus fou que c'est tous les jours, de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit et même parfois le monde dans lequel on va vivre. Nous sommes en 2032. Quentin, lui et sa compagne sont à l'hôpital de Monza, où ils se sont lancés dans une FIV, car Quentin est persuadé que pour optimiser leurs chances, le petit Ayrton, lui, doit être conçu le plus proche possible d'un circuit de Formule 1. La veille, ils se sont d'ailleurs recueillis sur le circuit d'Imola, où dans le virage maudit, Quentin a dispersé les cendres de son tonton milliardaire, celui dont l'héritage lui a permis précisément de financer cette FIV. Un peu particulière, puisque grâce au progrès de la science, le couple a pu configurer sur mesure le futur petit lui. Il aura les yeux et le sens commercial de son père, mais en revanche pour la taille et les goûts vestimentaires, il aura les gènes de sa mère, c'est mieux ainsi. Oui, aujourd'hui on va zoomer sur ce qui n'est encore
pas encore
à fait un phénomène de société, mais qui pourrait un jour le devenir, le shopping génétique. Choisir méticuleusement les gènes de son enfant, aujourd'hui en France c'est évidemment interdit, mais ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, quand vous avez recours à une GPA, beaucoup de choses sont déjà possibles. Alors qu'est-ce qui se fait déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se faire demain? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Jean-François Bouvet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Jean-François, vous êtes neurobiologiste, agrégé de sciences naturelles. On peut lire vos chroniques, toujours très intéressantes, dans Le Point. D'ailleurs, le thème de notre émission vous a inspiré un billet intitulé « Cette start-up prétend sélectionner les embryons à fort QI potentiel ». On va évidemment y revenir puisque c'est le cœur de notre émission. Vous êtes aussi l'auteur de « Bébé à la carte » aux éditions des Équateurs Sciences. Alors Jean-François, vous allez nous expliquer en quoi consiste ou en quoi consistera, on va dire, le shopping génétique. Juste le temps de vous présenter deux journalistes fabriqués de manière complètement artisanale. C'est du bel ouvrage. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Manon, chaque après-midi, vous nous indiquez une autre personne à suivre.
Le héros d'un film dystopique très en avance sur son temps en ce qui concerne le shopping génétique. Spoiler, il est interprété par Ethan Hawke, qu'on avait un peu oublié, il faut le dire.
Oui, c'est un film phare de ma jeunesse et c'était il y a 20 ans. Ça, c'est vraiment un gros coup de vieux. À ma gauche, mon cher Quentin, chaque jour, vous partez à la rencontre des gens pour les interroger sur notre notion du jour.
Dans la rue, et je suis allé dans la galerie marchande sous la tour Montparnasse. Ouh. Drôle d'endroit pour faire du shopping.
L'enfer.
Voilà, mais pour parler shopping génétique, ça a marché. Vos réactions sur les bébés à la carte, c'est dans la prochaine demi-heure dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, nous assisterons à ce qu'il n'est pas exagéré de qualifier de duel des titans. Puisque le Zoom Zoom Test spécial mystère de la génétique opposera notre invité, neurobiologiste, agrégé de sciences naturelles, à Manon et Quentin.
Oui, bah,
on fera super.
Ouais, vous ferez ce que vous voulez. Juste avant 17h, on retrouvera Lilia Benchaban, mais d'abord Jean-François Bouvet, en parcourant votre livre, on se rend compte qu'on peut déjà non seulement sélectionner mais aussi modifier le patrimoine génétique des enfants à naître. Moi je pensais tout simplement que c'était pas autorisé.
Bah, tout dépend dans quel pays. Alors il y a une variété de législation phénoménale qui autorise justement toutes les dérives. C'est-à-dire quand on peut pas faire quelque chose quelque part, et ben on va dans un autre pays et on le fait. Bon, en Chine par exemple, il y a énormément de choses qui sont possibles. Mmh. Aux États-Unis aussi, en particulier pour ce qui concerne la sélection des embryons. En France, c'est très limité, très contrôlé sur le plan éthique. Donc on est très rigoureux. Hein.
C'est quoi le maximum qu'on peut faire en France en termes de planification génétique?
Alors, modifier un embryon, pour le moment, non. Trier les embryons, oui. Mais avec ce qu'on appelle le DPI, diagnostic préimplantatoire, qui vise à détecter une maladie génétique incurable.
C'est uniquement dans ce cas-là qu'on peut intervenir.
Voilà, uniquement. Et c'est très contrôlé, ça n'est fait que dans quelques établissements. C'était 5 il n'y a pas si longtemps. Donc on ne fait pas n'importe quoi, c'est très contrôlé.
Face à vous, Jean-François Bouvet, sa maman est formelle. Même si elle avait pu avoir recours au shopping génétique, elle n'aurait pas changé un gène. Elle aurait tout fait pareil, car je la cite, son Cyril est juste parfait. Ce n'est pas nous qui bénéficions de cette perfection au quotidien, qui aurait l'idée de la contredire, évidemment.
Si, vous avez le droit à ma perfection. Si.
C'est ce que je dis.
De temps en temps, vous avez le droit.
Pas toujours.
Entre 16h et 16h02.
Ça distribue avec parcimonie.
Entre deux grosses phases de bougonnerie, on a droit à un éclair comme ça de perfection de temps en temps. Ça fait plaisir. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Cyril, racontez-nous donc le shopping génétique, d'où ça sort.
Faire de bons enfants, et je mets des guillemets autour de bons enfants, c'est vieux comme le monde. Si les familles voulaient faire de bons mariages, c'est-à-dire marier leurs enfants avec des gens de leur classe sociale, voire des classes sociales supérieures, c'était dans l'espoir que leurs descendants prolongent leur lignée, qu'ils soient bien nés et mis dans les meilleures dispositions pour réussir. Ce n'était pas de la manipulation génétique, mais une sorte de manipulation sociale. C'est plus tard que la science a eu envie de s'en mêler, jusqu'à mettre un mot dessus, l'eugénisme. Un terme qu'on doit à un Anglais, Francis Galton. Galton est explorateur, géographe, biométricien, statisticien, cousin de Charles Darwin. Et en 1883, c'est lui qui invente la notion d'eugénisme. Un projet qui a pour but d'améliorer l'espèce humaine, justement en allant plus loin que les bons mariages. Francis Galton dit que l'eugénisme doit, je le cite, « s'occuper de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins bonnes ». Bon, il y a deux conséquences à cette façon d'envisager la reproduction. La première, c'est donc d'encourager la reproduction entre celles et ceux qui sont catalogués comme étant le haut du panier. Et la seconde, d'éliminer ceux catalogués comme inaptes. Ça va d'abord être les handicapés, puis d'autres.
Et c'est ce qui s'est passé avec le régime nazi.
Exactement. Il fallait protéger le sang allemand. C'est comme ça que les mariages avec des personnes juives ont été interdits et qu'Adolf Hitler a imaginé l'avènement de la race aryenne. Son plan ne s'est pas déroulé comme prévu, mais l'eugénisme n'est pas mort dans un bunker berlinois. Ce projet d'améliorer l'espèce humaine excite les scientifiques. En 2018, un chercheur chinois s'est vanté d'avoir génétiquement modifié deux bébés. Il les avait rendus résistants au VIH, une manipulation qui aurait également augmenté les capacités cérébrales des jumelles. Une manipulation qui lui a aussi valu 3 ans de prison, car oui, c'est interdit, interdit mais faisable. Alors, puisque c'est faisable, jusqu'à quand résistera cette interdiction? Est-ce que le shopping génétique n'existe pas déjà? Est-ce que la manipulation des embryons est véritablement une amélioration de l'espèce humaine? Où fixer les frontières? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Jean-François Bouvet, expliquez-nous déjà à quel moment on peut techniquement modifier génétiquement un être humain. Tout se joue au niveau de l'embryon?
Pas forcément, non. Alors, au niveau de l'embryon, oui, c'est techniquement faisable. D'ailleurs, ça a été fait. Hein. Mais on peut aussi modifier génétiquement les adultes pour les traiter une maladie génétique. Hein. Et donc, à ce moment-là, on va, par exemple, donc, leur injecter un virus avec un nouveau gène. Hein. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec la maladie de Duchenne. Hein. Mm-hmm. Bon, il y a un gène déficient qui est le gène de la dystrophine. Bon, c'est une protéine qui sert à soutenir les muscles. Et on essaye de la faire pénétrer sous une forme un peu raccourcie, d'ailleurs, on essaie de faire pénétrer le gène dans l'organisme pour que le nouveau gène prenne la place. À ce moment-là, on aura bien affaire à des gens génétiquement modifiés, mais ouais. Attention, uniquement au niveau de leurs cellules dites somatiques, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas dans la reproduction. Donc ça ne sera pas transmissible.
Ça sera pas héréditaire, ensuite.
Voilà. Alors que si vous manipulez l'embryon, ça va être héréditaire. C'est pas du tout la même chose.
Mais Cyril disait qu'un chercheur chinois avait rendu résistant des bébés au VIH. Donc concrètement, c'est possible de faire ça aujourd'hui?
Oui et non. Alors, on peut. Le gène en question, qui s'appelle CCR5, est un gène qui intervient, code pour un récepteur qui permet au virus de rentrer. Donc c'est là-dessus qu'il a fait sa manipulation génétique. Mais on aura l'occasion d'en parler, mais il ne faut pas oublier qu'on a un nombre de gènes phénoménal et qu'ils interagissent les uns avec les autres. Donc quand vous modifiez un gène, vous modifiez certainement, enfin très probablement, d'autres gènes.
Hein, y compris, il y a un effet domino.
Voilà, il y a un effet domino, ça peut être embêtant. Par exemple, si vous manipulez un gène, avec la technique dont on aura l'occasion de parler, hein, les fameux ciseaux moléculaires...
Ah oui, ça, il faut nous expliquer ce que c'est.
Oui, alors, bon, ça, c'est quelque chose qui était censé être sûr à 100%. On s'est aperçu que dans la manip de ce chercheur chinois, qui a manipulé donc des bébés pour les rendre résistants au VIH, on s'est aperçu qu'il y avait eu des bugs un peu partout, en différents points du génome, qui n'étaient pas prévus, en dehors de la cible. Donc, on ne sait pas trop, on travaille un peu en aveugle et on fait semblant de ne pas travailler en aveugle. C'est ça qui est dangereux.
Mais sur un être humain, un adulte ou même sur un bébé, ça n'a rien à voir avec un embryon. Comment on intervient sur un embryon? C'est si petit.
Un embryon, c'est là que c'est le moins compliqué finalement, parce que justement, en utilisant les fameux ciseaux moléculaires, vous pouvez très bien... Alors, il faut peut-être expliquer d'abord comment on pratique à l'origine, si ça ne vous embête pas. Hein. Mm-hmm. Et il faut commencer par faire ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire qu'on va regarder quels sont les différents embryons qu'on a obtenus par une fécondation in vitro, et on va voir ceux qui sont porteurs de l'anomalie, hein, et éventuellement, mais là c'est dans un cadre de recherche, hein, on peut modifier le gène, un gène, en utilisant les fameux ciseaux moléculaires. Alors, je peux vous expliquer comment ça marche, en particulier le CRISPR, hein, CRISPR-Cas9.
Ça, c'est le ciseau moléculaire le plus utilisé.
Voilà, c'est le plus utilisé. Bon, c'est celui qui a valu, d'ailleurs, à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna le prix Nobel de chimie, hein, il n'y a pas longtemps. Bon, c'est un système qui est très simple dans sa conception, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que vous avez une partie CRISPR qui va reconnaître le gène à modifier. Mm-hmm. Il va se coller dessus, hein, et vous avez des ciseaux moléculaires qui vont couper l'ADN à cet endroit-là, ce qui va permettre d'y mettre un autre
ce
gène
qu'on veut
à la place. Voilà.
Wow.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et si vous customisiez votre futur bébé? Zoom cet après-midi sur le shopping génétique avec le neurobiologiste Jean-François Bouvet. Jean-François, il y a une start-up américaine qui propose depuis quelque temps de trier les embryons en fonction de leur QI. Déjà, première question, un embryon, ça a un QI? Ça, je ne savais pas. Et comment on le mesure s'il en a un?
Bah non, il n'y a pas de QI.
Ah oui, donc voilà, donc c'est des bêtises tout ça alors.
Non, non, ce n'est pas des bêtises, mais en fait, on modifie l'embryon de telle manière à ce qu'il ait le QI potentiel le plus élevé possible.
Voilà. Ouais,
voilà.
Ouais.
Bon. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver la martingale génétique la plus intéressante. Là encore, ça passe par le fameux diagnostic préimplantatoire. Hein. Bon, imaginons un couple très fortuné, bon, qui fait une FIV ou plusieurs FIV. Hein. Il obtient donc à chaque FIV environ 5 à 10 embryons. Bon. Là-dessus, on peut faire un test génétique sur chacun des embryons. Hein. On prélève 2 cellules sur 8 et on va regarder ce qu'il y a dedans sur le plan génétique. Bon. Et ces gens-là prétendent qu'ils sont capables de vous dire quel est celui qui a la martingale génétique la plus prometteuse sur le plan du QI.
Mais c'est foireux, d'après vous.
Alors, bon, pour le moment, c'est complètement foireux parce que avec 5 embryons ou 10 embryons, vous n'allez pas très loin. Hein. Bon, en plus, ça, martingale génétique qui donne le fort QI, on pourra en discuter, mais il faut savoir que les gènes qui contrôlent l'intelligence, entre guillemets, parce qu'on pourra discuter de l'intelligence aussi, hein, il y en a au moins 1500.
Bah oui, donc
bon. Donc pour
juste
tomber sur la bonne martingale, c'est pas évident.
Donc du coup, c'est une arnaque. Il y a quand même des arnaques.
En l'état actuel, c'est une arnaque. Bon,
4 000 $ pour tester, oui. 50 000 jusqu'à
alors,
une centaine d'embryons.
Si vous faites sur une FIV, donc sur 5 à 10 embryons, ça coûte 4 000 $.
Ouais.
C'est un prix d'appel. Hein. Ils ont dit qu'ils allaient s'aligner sur la concurrence. Et si vous faites 10 FIV successives, vous avez, mettons, une centaine d'embryons au mieux. Là, ça vous coûte 50 000 $.
Oui, donc c'est pas pour tout le monde.
Non, c'est pas pour tout le monde.
Et c'est une arnaque.
Pour le moment, c'est une arnaque, oui.
Okay.
Bon, et c'est une arnaque éthique, mais c'est aussi une arnaque commerciale pour le moment, parce qu'on ne peut pas faire ça dans l'état actuel des choses. On n'a pas assez d'embryons pour faire ça, et on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, mais on pourra un jour faire ça sur 100 000, 1 million d'embryons, sans aucun problème, issus d'une même personne.
Oh là là, c'est vertigineux. Mais c'est clair que l'intelligence, c'est le stade d'après, influer sur l'intelligence, mais qu'est-ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui, même... Là, je ne parle pas de l'égalité, mais qu'est-ce que les scientifiques savent faire en termes de modification génétique? Est-ce qu'on sait obtenir des yeux bleus quand on en veut? Est-ce qu'on sait... Enfin, ce genre de choses.
Alors, les yeux bleus, c'est déjà le cas aux États-Unis. Moi, c'est des officines privées qui vous proposent ça. Okay. Hein. Il faut déjà qu'il y ait les bons gènes dans le patrimoine génétique des parents pour que ce soit possible. Mmh. Mais après, oui, par la même méthode, le fameux diagnostic préimplantatoire, vous pouvez sélectionner les yeux bleus, par exemple. C'est les plus demandés. Hein.
Ouais.
Bon, ça, c'est faisable. Ça coûte cher aussi, mais c'est proposé par des laboratoires américains privés qui se sont spécialisés dans ce genre de choses.
Ça coûte combien?
Ah non.
Là, j'ai pas le prix. Je sais que c'est très cher.
C'est très très cher.
Oui, oui.
Un mot de la Chine aussi. On a cité tout à l'heure ce docteur qui avait pris 3 ans de prison parce qu'il avait génétiquement modifié des bébés pour les rendre résistants au VIH des jumelles. Est-ce qu'il y a d'autres expériences de ce type qui sont en cours, dont on a vent ou qui défraient la chronique dans le milieu scientifique?
Alors, il y en a peut-être d'autres, mais pour le moment, on n'est pas au courant. Enfin, s'il y a des gens qui font ça, ils ne se sont pas manifestés. Bon, simplement, celui qui a modifié les embryons, pour les rendre résistants au virus du SIDA, est réapparu sur le devant de la scène scientifique de manière très surprenante, parce qu'il sort de prison et il remet ça, en quelque sorte. Hein. Et là, il a décidé de s'attaquer à un gène qui est responsable de la maladie d'Alzheimer. Bon, il dit aux gens, mais attendez, on ne va pas se priver de modifier les embryons pour qu'ils n'attrapent jamais la maladie d'Alzheimer. Bon, donc il y a un gène de la maladie d'Alzheimer qui, chez certaines personnes, est constitué de telle manière qu'il n'attrape jamais la maladie d'Alzheimer. C'est un gène qui code pour une protéine, ça s'appelle le gène APP, c'est le gène qui code pour la protéine précurseur de l'amyloïde, l'amyloïde étant cette protéine qui forme des petits amas dans le cerveau des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Bon, donc il a décidé de travailler là-dessus, et il propose de modifier le gène de l'APP, de cette fameuse protéine, pour que les gens n'attrapent jamais la maladie d'Alzheimer. Mais le gros problème, c'est que ce gène qui contrôle l'APP contrôle aussi de multiples autres gènes, par interaction.
Là encore, il y a, risque
là encore, il y a des risques, vous ne savez pas où vous allez. Quoi.
Et vous, êtes-vous prêt pour le tuning sur enfants? Quentin est allé vous poser la question assez frontalement, sans prendre de gants. Quentin, et où êtes-vous allé pour parler shopping génétique?
Eh bien, je flâne au pied de la Tour Montparnasse. Il y a là une galerie marchande souterraine avec un magasin de vêtements qui diffuse de la musique des années 80. Drôle d'endroit. En ressortant, ce jeune homme me sourit en voyant le micro France Inter. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Kylian.
Kylian, vous avez quel âge?
J'ai 23 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous?
Je suis chef de bord à la SNCF chez TGV Inouï.
Il sort d'un train. Il me confie qu'il connaît l'émission. Il a même déjà festoyé avec Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint. Bref, il fait partie de la famille Zoom Zoom Zen.
Oh, oui.
On essaye.
Shopping génétique. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça peut poser un certain nombre de questions éthiques, assurément. Soit on voit le verre à moitié plein et on considère que c'est positif parce que ça va nous permettre d'avoir une société avec des gens aux capacités intellectuelles incroyables qui seront capables d'accomplir plein de choses. Soit on voit le verre à moitié vide et on considère du coup que ça peut tendre vers un certain nombre de risques et une uniformisation de la société, une standardisation des gens. Voilà.
En tout cas, il nous faudra des chefs de bord.
Oui, ça je suis d'accord.
Et d'ailleurs, avant de partir, je lui demande une petite annonce.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à bord de la première radio de France. Nous sommes ravis de vous avoir à l'antenne ce jour et ravis d'être dans Zoom Zoom Zen aujourd'hui.
Allez, merci, le chef de bord. Elle porte un ciré gris avec un bonnet rayé, on dirait une bretonne. Mais Flavie est parisienne et artiste plasticienne.
Shopping génétique. Ça pose forcément question, en fait, d'ouvrir cette possibilité-là et de rendre possible l'eugénisme, puisque finalement, on est...
Ça vous fait penser à quoi ?
Ce que dans l'histoire récente, on va dire que la Seconde Guerre mondiale, avec ses dérives, était principalement sur une base d'eugénisme.
On parle des nazis.
Tout à fait, la race aryenne. Ouais. Et du coup, la classification des êtres humains selon leurs origines.
Eh oui, forcément, la sélection, c'est du racisme. Et le danger du shopping génétique, c'est ça. Nathalie, elle a la cinquantaine. Elle porte de grandes lunettes marron écaillées. Elle tente...
Shopping génétique. Qu'est-ce que c'est? Ça voudrait dire que génétiquement, on est programmé pour faire du shopping?
Alors, ça aurait été mieux, mais je lui explique le cas de cette start-up américaine. On sélectionne son embryon, son QI, on s'assure qu'il n'a pas de maladie. Tout ça moyennant 50 000 dollars.
Ça fait flipper, rien que d'entendre ça. Je vais passer pour une vieille conne, mais c'était mieux avant, non? Mais là, en fait, on fait quoi de ces enfants-là? Et puis, si ça va pas, on en fait quoi? Si malgré tout, avec tout ce tri qui est fait à la base, si les parents, ça leur convient pas, ils en font quoi de ces enfants? Ça questionne.
Ouais, la question peut se poser si finalement l'embryon n'atteint pas les espérances comme un vulgaire retour sur investissement, qu'est-ce qui se passera? Ma dernière rencontre, c'est cette jeune femme, veste en fausse fourrure léopard, du maquillage vert autour des yeux, elle part en cours.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom?
Marie.
Marie, vous avez quel âge?
J'ai 25 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous?
Je suis doctorante en droit.
Alors, cette étudiante en droit, que lui inspire le...
Shopping génétique. Cette start-up américaine propose de trier les embryons pour garantir un QI plus élevé aux futurs enfants. Ah oui. Moi, tout de suite, je pense que c'est dommage parce que ce qui est beau, c'est de ne pas savoir trop, à part le sexe du bébé qu'on peut connaître, à quoi s'attendre. Enfin, c'est une belle surprise, je trouve, de découvrir son enfant petit à petit et d'essayer de planifier jusqu'aux caractéristiques d'un être humain et de se priver du bonheur de voir son développement et d'être surpris. Je trouve ça assez triste. Un besoin de contrôler puis de monétiser des choses qui n'ont pas à l'être, quoi. Enfin... de trier et d'essayer d'arriver, de parvenir à l'humain le plus parfait en termes de QI, d'apparence, je trouve ça Inhumain finalement.
Et comme je l'ai sous la main, qu'est-ce que dit le droit sur les conséquences que pourrait avoir ce shopping génétique?
Alors dans le droit, mais je pense que c'est des choses qui sont quand même très encadrées et qui seraient à mon sens assez illégales, puisqu'on touche aussi à une monétisation de la personne humaine qui n'est pas légale.
Ouais, mais on peut s'attendre à ce que, pourquoi pas un jour, ces bébés-là, ces embryons-là qu'on classe, se retournent contre leurs parents.
Ce serait possible, oui. Enfin, je pense que ce serait un contentieux qui pourrait s'ouvrir, à mon sens.
Dans quel monde on va?
Alors là, je sais pas du tout. D'habitude, je suis plutôt optimiste, mais là, c'est vrai que c'est pas beau à voir.
Que peut devenir une génération sélectionnée, triée, et au bout du compte, une génération de privilégiés quand même? J'avoue que je préfère le shopping, le vrai. Celui où on fait chauffer la carte bleue, comme disent les jeunes. Et ça, c'est sans doute la génétique.
Je suis toujours ému de découvrir que les jeunes parlent comme moi. Ouais. Dans l'esprit de Quentin. Merci Quentin. Jean-François Bouvet, intéressante cette réflexion de Marie, l'étudiante en droit. On pourrait imaginer une génération qui se retourne contre ses parents.
Oui, moi ça m'a interpellé, ça, je trouve ça très bien. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a des gens qui naissent sélectionnés et d'autres pas. Et à ce moment-là, on peut imaginer des enfants qui attaquent les parents juridiquement.
Non, mais attends,
j'ai tel ou tel problème, t'aurais pu me trier quand même. Voilà quoi.
Oui, mais pour ça aussi, il faut qu'ils le sachent. Est-ce que les parents vont le dire à leurs enfants qu'ils ont été modifiés?
Pas forcément, bien sûr. Bien sûr.
Ça va être une question aussi.
Enfin, oui,
Il y a une génération de jeunes qui penseront être intelligents naturellement.
Absolument.
Alors qu'en fait, ça sera juste ils ont été triés, en fait. Quentin.
Comparer ça à l'eugénisme, on l'a entendu, aux nazis aussi, ça vous semble excessif ou c'est une dérive à long terme tout à fait envisageable, ça?
Moi, ça me semble... excessif en ce sens que, bon, cet eugénisme-là est un peu différent parce qu'il n'est pas imposé par un régime dictatorial et il est basé sur le choix de la sélection de certains gènes qui existent déjà chez les embryons qu'on a produits. C'est pas la même chose que d'éliminer des gens vivants et déjà nés, etc. Bon, moi, ça me pose un problème un peu différent. C'est que c'est quand même une conception de la valeur intrinsèque des êtres humains avec une inégalité... absolue, quoi. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des êtres qui sont supérieurs aux autres. Et bon, moi, ça me pose un gros problème moral, éthique. Parce que moi, ce qui me frappe, si je me permettais d'en dire un mot, mais moi, j'ai exactement la conception contraire. Je pensais à ça, justement, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, vous allez me dire quel rapport, le reportage de France 2 sur la reconstruction de Notre-Dame. Bon. Et on voyait les compagnons, hommes et femmes, je ne sais plus combien ils étaient, 2000, je crois. Bon, ils n'étaient pas tous beaux, ils n'étaient pas tous Brad Pitt ou Monica Bellucci. Bon, mais ils avaient une espèce d'intelligence du regard et un désir de travailler ensemble avec leurs caractéristiques propres. Intellectuellement, ils n'étaient sans doute pas faits pareil, mais ils ont réussi à faire, non pas des humains parfaits, mais une humanité parfaite, parce qu'elle a réussi à réaliser un chef-d'œuvre parfait. Bon, Notre-Dame, à l'heure actuelle, c'est extraordinaire. C'est des humains parfaits qui l'ont fait.
Et si je prolonge votre pensée, dans ce monde où on trierait génétiquement les embryons, les gens seraient peut-être tous, la génération d'après, plus intelligente, mais ils seraient tous pareils, ils se ressembleraient beaucoup plus, finalement.
Oui, excusez-moi un gros mot, mais qu'est-ce qu'on s'emmerderait, finalement?
On s'emmerderait, Quentin.
Elle pose une bonne question, Nathalie, si après tant d'efforts pour avoir le bon embryon, si malgré tout ça marche pas, quelle réaction vont avoir les parents? Est-ce qu'ils peuvent être déçus, délaissés, retentés?
Ça, c'est une très bonne question aussi, parce que quand on voit la start-up qui est en train de faire ça, qui s'appelle Heliospec Genomics, hein, ceux qui veulent trier le QI, ils sont sûrs de ne pas avoir de problème de réclamation auprès du service client. Parce qu'avant qu'on puisse tester le QI de l'enfant qui vient de cet embryon, à mon avis, la boîte aura fermé boutique.
C'est un bon business model, finalement. Ils sont malins.
C'est très malin. C'est un truc qui est invérifiable. Et en plus, vous ne pouvez pas prouver qu'il est plus intelligent que les autres embryons que vous n'avez pas choisis.
Bien sûr.
C'est trop tard.
Écoutez, on a fait un con, je comprends pas.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Serions-nous de ce monde, les amis, si le shopping génétique avait existé du temps de nos parents? Voilà la vertigineuse question qui hante Quentin. Depuis qu'il a pris connaissance du sujet, certaines réflexions de ses parents lui reviennent en mémoire. C'est bizarre, c'est quand même le premier lui qui s'habille en XS.
Non.
Il mesure combien déjà le facteur? Des doutes qui auraient pu être levés grâce au shopping génétique. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un quiz en forme de tour d'horizon des avantages et inconvénients du click and go du génome. Nous sommes le 23 décembre 2030. Manon, qui une fois de plus a bien anticipé Noël, clique frénétiquement « Ajouter au panier » sur Amazon pour que, bon, à faire ses son shopping de Noël, finalement, évidemment. Shopping faisant, elle tombe sur un produit qui, pour le coup, l'intéresse elle-même et qu'elle va immédiatement ajouter au panier. Le pack standard bébé config, qui permet de choisir certains gènes de son futur marmot. 9 mois plus tard, vient l'heure du unboxing et là, c'est le drame.
Quel enfer.
Manon réalise qu'elle n'aurait pas dû chipoter en prenant le pack standard. D'après vous, pourquoi aurait-elle dû prendre le pack premium? Parce qu'avec le pack premium, elle aurait pu éviter que son bébé sente le poisson pourri, choisir l'option bébé auto-nettoyant, ça c'est pratique, hein, ou choisir la couleur du bébé.
C'est, je pense que...
C'est compliqué ça. C'est quoi les...
C'est compliqué.
Je pense que c'est le plus logique.
Enfin, la question est tournée de manière...
Le poisson pourri...
Poisson pourri, c'est bizarre.
Ah si, bah, je vais dire poisson pourri, moi. Poisson pourri, ah.
Poisson pourri.
Ah.
C'est une bonne réponse. Effectivement, Manon est tombée sur un bébé qui pue. Oui, avec le pack premium.
Bah, elle aurait bébé,
pu. Non, mais là, le poisson pourri, c'est autre chose. Elle aurait pu éviter ça simplement en décochant la case triméthylaminurie, une maladie qui consiste en une mutation génétique entraînant un excès de triméthylamine, un composé chimique présent dans la sueur, l'urine, la salive, et qui confère à votre peau, une persistance odeur de poisson pourri. Et la mise en contexte est évidemment un simple exemple, puisque ce gène se transmet de manière héréditaire et que chacun sait qu'à part la fois où elle était tombée bourrée dans le canal Saint-Martin, Manon ne sent pas le poisson pourri. En revanche, il y a un gène que Manon possède certainement et qu'elle a en commun avec la légende du black metal, Ozzy Osbourne. Vous l'avez adoré dans l'émission de télé-réalité The Osbournes. D'après vous, quelle est la spécificité étonnante de ce chanteur? Comme Manon, il a chanté un titre qui s'appelle My British Nights. Comme vous, il a un gène qui l'empêche de faire du sport. Ou comme vous, il est génétiquement programmé pour résister à l'alcool et à la drogue.
C'est...
Ah ouais, y
a... c'est sûr.
Ah ouais, attends.
Jean-François, une idée?
Pas mieux.
Attendez, moi je vais en tenter une autre.
Ah bah oui, évidemment, Quentin.
B,
c'est-à-dire qu'il a un gène qui l'empêcherait de faire du sport.
Ouais.
Ouais. Non, c'est une bonne réponse de Manon et Jean-François. Fascinante génétique, c'est médicalement prouvé puisque, intrigué par le fait que Ozzy Osbourne soit toujours en vie après tout ce qu'il s'est mis, des chercheurs de l'université de Massachusetts se sont penchés sur la question et ils ont découvert qu'il était porteur d'un gène mutant qui expliquerait cette tolérance particulière à l'alcool et aux drogues. Si vous ne voyez pas qui est Ozzy Osbourne, imaginez-le comme l'antithèse absolue de Vianney qu'on voit mal par exemple tuer et manger une chauve-souris crue sur scène.
C'est vrai.
Mais, comme je vous sens terrorisé par ce que je vous raconte, retrouvons vite notre zone de confort, la France des terroirs. Nous sommes aux portes du parc naturel de Normandie, dans un écrin de verdure, Alençon. Saviez-vous que la dentelle du point d'Alençon est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO?
Oui, parce que Quentin le dit tous les deux jours. Donc
Tous les deux jours, après, oui.
Ouais, c'est vrai. Mais Alençon est aussi un formidable incubateur à génie, puisque c'est là que Nakir Orelsan, Laurent Deutsch, Sainte Thérèse et Quentin. Comme nous l'avons dit au début de ce quiz, Quentin s'interroge sur ses origines. C'est pourquoi il y a 2 semaines, il a franchi le pas. Il a envoyé un paquet de 125 grammes de poils de barbe, récoltés évidemment sur 10 ans, à TarataTaDN, la start-up de test génétique lancée par Nagui. Au moment d'ouvrir l'enveloppe avec les résultats, il tremble de peur, car avec un simple test génétique, aujourd'hui, vous pouvez découvrir quoi?
C'était pas des poils de barbe.
Très bien. Merci pour cette information. Vous pouvez découvrir que votre père est en fait votre oncle, que votre père est en réalité votre sœur, ou que vous êtes vous-même le père de votre père.
Les trois.
Ben, ça va pas. Enfin.
Jean-François vient de s'évanouir.
Ah, non.
Bah, A et B alors, je dirais.
C'est.
Très bien. Jean-François, quelle est la réponse?
Pas mieux.
Ah non, Jean-François, là, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était la réponse A. Accrochez-vous, c'est technique. C'est l'aventure qui est arrivée à un couple de Washington, qui a eu recours à une FIV en 2014 pour un enfant. Stupéfaction à la naissance, le groupe sanguin de ce dernier n'était pas celui qu'il aurait dû être. En gros, ce qui est compliqué à comprendre dans le cas d'une FIV réalisée par deux parents, le père n'était pas le père. Avant d'engager des poursuites contre la clinique pour erreur de pipette, ils ont contacté un généticien de l'université de Stanford, Barry Starr. En poussant plus loin l'analyse, il a constaté que le père biologique de l'enfant n'était pas le père, mais l'oncle, le parrain de l'enfant, Pierre Courade, qui venait d'arriver à la maternité par le lourd Washington du matin, était choqué.
C'est diablerie!
Hurlait-il en tournant autour du petit berceau tout en aspergeant d'eau bénite. Pourtant, point de diablerie dans cette histoire. En fait, figurez-vous que les gènes étaient ceux du jumeau intra-utérin du père, disparu alors qu'il n'était qu'un embryon. Le père était donc techniquement le fantôme de l'oncle. Tout est donc bien qui finit bien, sauf
vraiment,
pour le gamin.
On n'a rien compris.
Personne. Je pense même que la chute est pas bonne.
Comment ça?
L'oncle et tout ça, c'est pas... Parlez du frère, comment ça peut être l'oncle du père?
Mais parce qu'il a mangé, enfin le jumeau...
L'oncle, c'est le frère de votre père, Quentin.
L'oncle, c'est le frère de mon père.
Ouais, tout à fait. Et il était intra-utérin. Quand il était... En fait, votre père avait un jumeau. Et en fait, votre père, c'est votre oncle, génétiquement.
Ah, d'accord.
Ouais, j'essaie de l'expliquer comme j'ai pu. En tout cas, ce gamin n'échappera pas à 20 ans de psychanalyse. Enfin, pour vous départager très rapidement, pourquoi manger une banane fait presque de vous un cannibale? Parce que l'homme descend du singe? Parce que l'homme descend de la banane ou parce que la banane descend du singe?
Oh là.
B.
C.
J'ai l'impression, Manon, j'ai l'impression que vous avez répondu au hasard.
Oui, total.
Bonne réponse de Quentin, lui. Exclu mondial, Zoom Zoom Zen, vous l'aurez entendu ici en premier, l'homme descend de la banane. Enfin, techniquement non, mais nous partageons quand même 50% de notre ADN avec ce fruit. Pour être complet, nous avons à peu près 98% en commun avec le singe, 90% avec le chat et 95% avec le cochon. Fin de cette masterclass génétique avec une victoire surprenante pour celui qui n'a même pas eu SVT au bac.
Oui, c'est vrai.
Quentin, lui. Vous aviez déjà arrêté.
Merci à tous, oui.
Bravo.
Comme quoi la chance, le hasard.
Le hasard peut jouer. Un bébé à la carte, c'est le titre du livre de notre invité, le neurobiologiste Jean-François Bouvet. Jean-François, depuis l'ouverture de la PMA et plus encore depuis qu'on parle de GPA, il y a ce fantasme du bébé choisi sur catalogue. Est-ce que c'est une réalité dans certaines parties du monde? Ça, aujourd'hui, on choisit vraiment plein d'aspects de notre bébé.
Plein pour le moment, non. Pour le moment, il y a beaucoup de parties du monde où on peut choisir le sexe du bébé. Au stade embryonnaire, je vais dire. Hein.
Sûr.
Bon, on peut aussi choisir la couleur des yeux. Bon, la taille, c'est dans les cartons. Je pense que ça va se faire assez vite.
Bah, hein. Attendez, là, il va y avoir un gros problème. Par exemple, si je veux que mon fils soit une star de NBA, je peux faire en sorte qu'il fasse 2m20 ?
Peut-être pas ce point, mais là encore, vous ne pouvez trier qu'à partir des gènes
qu'on a.
Qui sont, voilà.
D'accord, donc ça sera, dans mon cas, limité à 1m90.
On va vous choisir le moins petit à ce moment-là.
D'accord.
Voilà.
Mais okay. Moi qui ne suis pas très grand, puisqu'on en rigole quand même souvent dans l'émission, je pourrais avoir un enfant qui fait 1m80-85.
Non, mais ça, c'est possible, oui.
Naturellement, mais
je dois vous dire que ça n'est pas du tout garanti. Hein.
Dommage, Quentin. Mais on peut modifier genre, des conditions physiques, par exemple, résister à la chaleur. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres exemples.
Résister
mais voilà.
À la chaleur, bon, le meilleur moyen de résister à la chaleur, c'est de transpirer. Donc, si vous voulez un individu qui... Bon, de toute façon, on sait qu'il y a des ethnies qui transpirent beaucoup plus que d'autres. Mmh. Hein. C'est d'ailleurs une adaptation à la chaleur, parce que la sueur, en se vaporisant, va pomper de la chaleur, et donc ça refroidit la peau. Bon, ça sert à ça, la sueur, en fait. Hein. Et ça, oui, ça dépend d'un certain nombre de gènes. Alors, peut-être que ça pourra se trier dans l'avenir, mais ça me paraît quand même assez improbable.
Moi, si je vous suis, Jean-François, j'ai l'impression qu'en fait, on est on est dans un entre-deux de la science, où on commence avec le ciseau moléculaire, avec ces manipulations génétiques, on commence à arriver à certains résultats, mais qui posent des problèmes parce que, ce faisant, on crée d'autres perturbations dans le génome.
Oui. Alors, quand on trie, non, pas du tout. Hein, on n'agit pas sur le... on prend un pack de gènes tel qu'il est, en fait. Hein. En revanche, dès qu'on commence à faire des manipulations génétiques utilisant des ciseaux comme CRISPR-Cas9, à ce moment-là, oui, il y a danger. Hein. On n'a pas des méthodes suffisamment fiables pour ça. Hein, et je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose non plus, sinon pour guérir des maladies.
Ben, c'est quand même, vous dites sinon pour guérir des maladies, c'est quand même un pan important de l'histoire de la science et de la médecine. On parlait tout à l'heure du cas d'Alzheimer. Essayer de faire en sorte que des enfants à naître ne puissent jamais contracter la maladie d'Alzheimer. Si on arrivait à faire ça sans les conséquences négatives qu'on a pour le moment, ça serait quand même formidable.
Sans les conséquences négatives qu'on a pour le moment, mais qu'on aura toujours, parce que mais il faudrait pas modifier un seul gène, en fait. Hein. C'est très compliqué. C'est un peu... Bon, il y a un généticien, hein, c'est pas moi qui ai pris cette image, qui a travaillé justement sur les gènes de l'intelligence, et qui disait, il faut comparer ça à une équipe de foot. Mm-hmm. Même si vous avez une star mondiale et qu'elle est dans une équipe qui ne marche pas avec elle de manière correcte, avec lui, pardon, ça fonctionne pas. Or là, vous jouez pas sur une équipe de foot, hein, qui a un effectif quand même limité, vous jouez sur des milliers de gènes impliqués, enfin plus de 1000 en tout cas. Hein. Donc c'est très difficile, à partir du moment où vous touchez à quelque chose, vous savez pas ce que vous faites à côté. Ça c'est carrément imprévisible en fait. Hein. Pour le moment ça l'est. Alors peut-être qu'on saura le faire un jour, mais bon, pourquoi pas, oui. Mais à mon avis c'est très ambitieux et en l'état actuel des choses, c'est extrêmement dangereux.
Mais là, il faut s'attendre à de plus en plus d'entreprises qui vont proposer ce type de modifications génétiques pour vous ?
Oui, sans doute. Enfin, pour le moment, ça ne dépasse pas le stade des laboratoires, donc de recherche fondamentale ultra performants et ultra sophistiqués. Ça se fait pas pour le moment, enfin, du moins à ma connaissance et à la connaissance des scientifiques de manière générale, dans des officines privées. On n'en est pas là. Hein. Bon, mais on ne sait pas tout ce qui se passe en fait. Hein.
Est-ce qu'il y a des recherches génétiques qui vous inquiètent, vous, en ce moment ? Qui sont pas encore sorties dans la presse, qui sont pas encore des start-up ?
Oui, ça tombe tout justement sur la manipulation génétique des humains, ça c'est clair. Hein. Tout ce qui est modification du génome des humains, ça me paraît dangereux. Mais ce qui me paraît le plus dangereux, c'est le tri sélectif des êtres humains qui, à mon avis, va se développer assez rapidement. Là, on va vers... Alors, je peux vous expliquer pourquoi ça va exploser. C'est que on sait faire maintenant des gamètes, des cellules reproductrices, donc ovocytes et spermatozoïdes, à partir de cellules souches. Bon, il y a même quelque chose qui est sorti, si mes souvenirs sont bons, l'an dernier. En prenant deux souris mâles, on a réussi à faire fabriquer, à partir de cellules souches d'une des deux souris, des ovocytes. On a fécondé les ovocytes d'une souris par le spermatozoïde de l'autre. Hein. C'était deux souris mâles. Donc on a obtenu ainsi une fécondation et on a donc obtenu des souris qui ont deux papas, en fait. Donc à partir des cellules souches, vous pouvez faire des ovocytes. Si à partir des cellules souches, vous pouvez... Parce que qu'est-ce qui limite le processus à l'heure actuelle ? C'est que dans une FIV, vous obtenez, vu le faible nombre d'ovocytes que vous pouvez avoir, vous obtenez un faible nombre d'embryons. Mais si à partir des cellules souches, vous faites des milliers, voire des millions d'ovocytes, et que vous les testez génétiquement avec des machines ultra performantes, parce que ça se développe très très vite tout ça, hein, à ce moment-là, vous faites un tri génétique sur beaucoup plus de gènes. Et vous arrivez de plus en plus à faire une sélection précise d'une combinaison qui vous paraît la meilleure. Ça, je crains que ça ne se développe, disons, dans les 10 ans qui viennent.
Vous écoutez France Inter, et je vous en félicite, c'est toujours un choix très judicieux. Jean-François, vous êtes formidable, mais il y a une autre personne à suivre, si on écoute Manon Mariani.
Je vous présente Vincent Anton Freeman. Il a 30 ans, il est américain, et c'est la star du film dystopique Bienvenue à Gattaca, joué par Ethan Hawke.
10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui apportait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
Le film est sorti en 1998, il est réalisé par Andrew Niccol, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était en avance sur son temps, car il représente ce shopping génétique qui fait tant débat. Dans l'univers du film, la procréation naturelle est marginalisée au profit de ce shopping génétique. Les parents, grâce à des technologies avancées, peuvent concevoir leurs enfants en sélectionnant des traits spécifiques tels que l'intelligence, la beauté, la santé et même la longévité de leur vie. Ce procédé est présenté comme un progrès scientifique permettant de maximiser les chances de réussite de l'enfant et d'éliminer les maladies héréditaires. Évidemment, ça a des conséquences. Cette pratique engendre une société eugéniste divisée entre les valides, donc les individus conçus par manipulation génétique, et les invalides, ceux qui sont nés naturellement. Vincent Anton Freeman fait partie de cette seconde catégorie. Il est relégué aux marges de la société car son ADN révèle des imperfections comme une probabilité élevée de maladies cardiaques ou encore une espérance de vie réduite, ce qui en fait un individu classé comme inférieur. Mais Vincent a un rêve, être astronaute. Et il ne veut pas que son ADN l'empêche de l'atteindre. Du coup, il usurpe l'identité génétique d'un valide joué par Jude Law en échange d'argent. Vincent se glisse dans cette nouvelle identité avec une précision méticuleuse, allant même jusqu'à adopter les rituels quotidiens nécessaires pour dissimuler ses fameuses imperfections. Bienvenue à Gattaca souligne les limites éthiques du shopping génétique où la quête de perfection, crée de nouvelles injustices et réduit l'humanité à un code génétique. Le film critique aussi les dangers de cette médecine non régulée où le meilleur devient un idéal tyrannique plutôt qu'un progrès pour tous. C'est une sorte de nouvelle dictature en fait. Mais le film montre aussi via le personnage interprété par Ethan Hawke, que même dans une société obsédée par l'optimisation génétique, la liberté individuelle et l'imprévisibilité humaine seront toujours les moteurs de la vie.
Merci Manon pour cette belle philosophie. Justement, Jean-François Beau, c'est un peu une question philosophique finalement, mais réduire l'humanité à son code génétique, c'est la fin de l'humanité finalement.
Disons que c'est extrêmement réducteur parce que en plus de ça, on sait la fin du XXe siècle, c'était la période du tout génétique, c'est-à-dire que l'ADN, c'est là qu'on a décodé le génome, enfin totalité de l'ADN. Bon, on s'est rendu compte depuis quelque temps que, et c'est le domaine de l'épigénétique, que notre génome est important, certes, mais ce qui est important aussi, c'est ce qui fait qu'il va s'exprimer de telle ou telle manière, l'environnement, etc. Bon, et ça joue beaucoup d'ailleurs sur l'intelligence. Hein. Bon, on sait par exemple que les enfants malnutris on dit retard cognitif. Hein. Bon, on sait aussi que les perturbateurs endocriniens peuvent diminuer les capacités cognitives. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire qu'il y a eu aux Antilles avec le chlordécone, pesticide. Il y a une étude qui est menée par l'INSERM en ce moment sur une cohorte d'enfants qui montre qu'il y a un retard cognitif chez les enfants qui ont absorbé du chlordécone. C'est quand même dramatique. Bon. Donc, ils ont beau avoir tel ou tel gène, ces molécules sont capables d'agir sur l'expression de ces gènes.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Selon lui, les apprentis sorciers qui jouent avec notre génome, les hérétiques qui commettent le sacrilège de vouloir se substituer à Dieu le Père, ne méritent pas de figurer dans Zoom Zoom Z. Ils méritent le bûcher. Mais brûlez-les, brûlez-les. C'est Poumon en régie, Pierre Courat, depuis la première minute de cette émission impie. Bonjour Pierre.
J'ai plus de voix. Bonjour Mathieu, bonjour à
tous. Tout ça vous révulse, c'est pourtant vous allez quand même nous résumer notre propos du jour en une minute chrono.
Et on a parlé de shopping génétique cet après-midi, ou comment on peut modifier les chromosomes des embryons pour en faire des bébés parfaits, alors qu'en fait, génétiquement modifié ou pas, on est toujours l'enfant parfait pour ses parents, et le petit carnet pourrait s'arrêter là, et l'abbé Chibrard est aux anges. Mais ce dont on a parlé avec Jean-François Bouvet, notre invité, c'est un phénomène beaucoup plus profond qui mêle argent et apprentis sorciers du génome. Des sociétés plus ou moins sérieuses proposent de modifier des gènes avec un instrument très simple, une paire de ciseaux, des ciseaux moléculaires. Pourquoi faire ? Généralement pour choisir le sexe ou avoir des enfants aux yeux bleus, c'est basique, mais ça coûte très cher. L'arnaque, c'est quand ces start-up promettent de rendre votre enfant plus intelligent, entre 4 000 $ prix d'appel jusqu'à 50 000 $ pour un résultat plus qu'aléatoire. Il y a 1 500 gènes qui contrôleraient l'intelligence, impossible à modifier pour ces start-up, même avec plusieurs dizaines de milliers de dollars. Arnaque commerciale donc, et arnaque éthique, précision intéressante apportée par notre invité, qui n'est pas qu'un pilleur d'idées pour ses articles dans Le Point. Il est avant tout neurobiologiste. En France, on ne peut pas légalement modifier le génome. On peut en revanche trier les embryons, mais seulement lorsqu'on détecte une maladie génétique incurable, et encore, c'est extrêmement contrôlé. Mais si la France restreint les champs d'application, la variété des législations dans le monde autorise toutes les dérives, ce qui désole Jean-François Bouvet. Là où il y a du gène, il n'y a pas de plaisir.
Là où il y a du gène, il n'y a pas de plaisir. C'est une plus belle chute.
Pierre. C'est gentil. Merci Mathieu.
Magnifique, magnifique. Bravo. Et pour conclure, c'était... J'ai été cueilli.
C'est
l'homme de bons mots, c'est l'homme l'amateur du jeu de mots qui vous parle.
Vous retrouverez un jour tous les deux sur Réa Chanson.
Mais c'est probable, mais c'est prévu. Pour conclure cette émission sur le shopping génétique, on accueille Lilia Benchaban et je préviens, aucun embryon n'en sortira indemne.
Oh là là, quel beau lancement.
Tu l'as écrit. Effectivement.
Alors aujourd'hui, on va parler shopping génétique, cette pratique qui permet de trier les embryons pour avoir les meilleurs bébés possibles, ce que n'ont clairement pas fait mes parents en mettant au monde un bébé albinos et malvoyant. Enchanté. Alors, le shopping génétique, comment ça marche ? Eh ben, on prélève les œufs de la maman qu'elle a congelé au préalable, et puis on prélève les spermatozoïdes du papa. Il les met dans un petit pot, hein, 30 secondes pour penser à l'infirmer, et hop, c'est fait. Et ensuite, on mélange et paf, ça fait des chocs à pic. Alors, jusque-là, rien de foufou, mais l'idée de génie, c'est d'analyser de très très près chacun de ces petits embryons pour anticiper d'éventuelles maladies et choisir le meilleur ou le moins pire de ces embryons, en fonction d'avec qui vous avez choisi de faire des chocs à pic. Parce que la France, ça fait pas des miracles. La France, n'importe quoi, parce que la science, ça fait pas des miracles. C'est vraiment, on est sur un lapsus. Alors, sinon, moi, j'ai une solution beaucoup plus rentable et beaucoup moins chère. Si jamais vous voulez un embryon parfait, on ne fait pas de bébé avec des moches, tout simplement. Voilà, c'est simple. Alors, au premier abord, moi, personnellement, j'ai l'image d'une boutique un peu façon Apple Store, avec plein de petites fioles remplies de semences, et avec des petites étiquettes, avec les petites origines, vous savez, homme, 32 ans, marathonien, mannequin, bac plus 8, médecin, prix de la fiole, 15 000 euros. Oula, pas du tout dans mes moyens, du coup, moi, je vais plutôt prendre la fiole d'à côté. Journaliste de gauche sur France Inter, avec des cheveux gras, prix 18 euros. Et en plus, il est valide. Alors, pour l'instant, cette pratique, c'est encore une pratique de niche. Et alors, heureusement, parce que t'imagines, t'arrives en couple sur un parking, et là, allez, il n'y a pas de place pour se garer. Tu sais quoi, chérie, envoie un mail au médecin et dis-lui. Dis-lui qu'on veut le bébé avec 3 chromosomes 21. Au moins, on aura de la place pour se garer. Bah ouais. Et avec un petit peu de chance, limite, ça pourra devenir une star de cinéma grâce à Arcus. Bah ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette pratique, elle permet d'anticiper certaines maladies lourdes dont pourraient être atteints les bébés. La mauvaise, c'est que ça voudrait dire qu'il y aurait moins d'handicapés, donc moins de personnes dans mes salles de spectacle. Et là, ma carrière en déclin. Non, parce que moi, j'ai rien dit sur le changement de sexe à l'école, mais alors là, empêcher des gamins d'être handicapés, je trouve que ça va trop loin. Stop aux dérives du wokisme. Bon, tout ça, évidemment, à condition que ça fonctionne, parce que j'ai lu un article sur le sujet pour écrire la chronique. Ça, c'est pour failloter avec la direction. Et du coup, apparemment, cette technique est fiable à 95% pour l'analyse d'embryons. C'est-à-dire que tu as 5% de chance d'avoir un colis endommagé. Ça reste quand même beaucoup plus fiable que Colissimo, ceci. Et ensuite, pour ce qui reste, pour le reste, c'est-à-dire savoir si la grossesse va aboutir ou pas, tout dépend évidemment de l'âge de la maman ou psy. Eh ben oui. C'est-à-dire que après 35 ans, eh ben tout de suite ça chute et les chances de réussite, elles passent de 30 à 50% seulement. Du coup, moi je pense qu'il faut qu'on se fasse une raison. Passé 30 ans, on abandonne les enfants. Voilà. Et on se contente d'élever des airfryers. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser parce que cet après-midi, j'ai shopping génétique avec ma copine. Et autant vous dire qu'il y a du boulot parce qu'elle est moche. Hein. Mais elle est gentille, elle est gentille.
Ouais, c'est bien l'essentiel. Merci Lilia Benchaban et merci Jean-François Bouvet de nous avoir permis d'entrevoir ce que nous réserverait peut-être un jour le shopping génétique. On peut vous retrouver dans Le Point et je rappelle votre livre « Bébé à la carte » aux éditions des Équateurs Sciences. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, Jean-François.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Zoom Zen.